France Culture, l'esprit public, Astrid de Vilaine.
Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de l'esprit public. Aujourd'hui, le monde vu de la Chine. Nous serons avec la sinologue Anne Cheng, le diplomate Nicolas Chapuis, le directeur de l'IFRI Thomas Gomard et la journaliste Sylvie Kaufmann. Cette émission a été préparée par Anne-Claire Bazin, réalisée et mise en onde par Julien Moulet.
Le chemin qui est devant nous est celui d'un rééquilibrage nécessaire, pas par incantation, mais parce que le chemin actuel n'est pas soutenable, parce qu'il est rentré dans un déséquilibre trop important. Et je vous l'ai dit avec beaucoup de franchise, nous voulons le faire et nous voulons le faire avec vous. Nous voulons consolider les entreprises qui travaillent des deux côtés. Nous voulons améliorer les exports de nos entreprises et nous voulons améliorer les investissements de vos entreprises et de vos grands secteurs dans notre pays et notre continent.
Emmanuel Macron, le 4 décembre dernier à Pékin, lors d'une visite d'État en Chine, le quatrième déplacement du président sur place depuis 2017. Mais que pèse le chef d'État français face à la deuxième puissance mondiale et à son président Xi Jinping, qui a entamé en 2023 son troisième mandat à la tête du pays depuis 2013 et bénéficie depuis 2018 d'une inscription dans la Constitution et d'une modification de cette dernière pour être élu à vie. Le premier ministre britannique Keir Starmer a prévu de s'y rendre en janvier et l'Allemagne craint les rachats de ses fleurons et la concurrence de son industrie sans transfert de compétences. De pays émergents, l'empire du milieu est désormais au centre du jeu et l'Union européenne semble à la remorque sans parvenir à maintenir sa souveraineté. Un changement de rôle qui déstabilise le vieux continent, sans parler de l'amitié avec la Russie et de la grande tolérance de Pékin sur la guerre en Ukraine. Au plan régional, le Japon de la nouvelle première ministre Sanae Takaichi relance les tensions liées à Taïwan et les États-Unis de Donald Trump font de la Chine le principal adversaire. Mais comment la Chine de Xi Jinping, elle, perçoit les autres pays du monde? Qui sont ses alliés, ses ennemis? Que prépare-t-elle quand elle offre aux yeux du monde une parade militaire avec du matériel de haute volée au mois de septembre dernier pour les 80 ans de la fin de la Seconde Guerre mondiale? Enfin, sur le plan intérieur, entre démographie en baisse, crise de l'immobilier, chômage des jeunes, contestation à l'aide du symbole de Winnie l'ourson, prisonniers politiques, dissidents et répression des Ouïghours, les oppositions sont étouffées, la culture du travail intensif perd de la valeur dans la jeunesse. Comment la Chine voit le monde et quels sont ses ambitions à l'intérieur comme à l'extérieur, c'est le thème de cette émission. Pour en parler, je suis très heureuse de vous accueillir, Anne Cheng.
Bonjour Astrid de Vilaine.
Merci d'être avec nous. Vous êtes sinologue, professeur au Collège de France. Vous êtes titulaire de la chaire Histoire intellectuelle de la Chine, votre dernier ouvrage, Désorienter la Chine au CNRS, et je cite bien sûr Penser en résistance dans la Chine d'aujourd'hui, qui est paru en poche à la rentrée. Nicolas Chapuis est avec nous ce matin. Bonjour.
Bonjour. Bonjour.
Merci d'être là. Sinologue, ancien ambassadeur de l'Union européenne en Chine de 2018 à 2022, traducteur de l'intégrale du poète chinois Du Fu aux éditions Belles Lettres. Et j'accueille deux habitués de l'esprit public. Bonjour Thomas Gomard.
Bonjour Astrid de Vilaine.
Merci d'être là. Directeur de l'Institut français des relations internationales, l'IFRI, auteur de L'accélération de l'histoire, les nœuds géostratégiques d'un monde hors de contrôle chez Talendier. Et Sylvie Kaufmann, bonjour.
Bonjour Astrid de Vilaine.
Merci d'être là. Éditorialiste au journal Le Monde, autrice de Les Aveuglés, comment Berlin et Paris ont laissé la voie libre à la Russie, aux éditions Stock. Merci à tous les quatre d'être là. Et donc, j'avais envie pour cette avant-dernière émission de l'année qu'on s'intéresse à la Chine, mais de son point de vue à elle. Anne Cheng, est-ce que vous pourriez nous dire comment la Chine nous perçoit, nous Français, nous Européens?
Bien, je tiens à préciser que je ne suis pas la Chine. Je pense que ce serait plutôt une question à poser à Monsieur Xi Jinping lui-même. Alors, comme j'ai mes réflexes de vieille prof, je voudrais quand même rectifier quelque chose dans la façon dont vous avez présenté le grand leader actuel. Vous avez parlé de troisième mandat. Vous avez même dit qu'il a été élu pour une troisième fois. Là, je pense qu'il faut quand même rectifier parce que on sait bien que en Chine, l'homme qui est au sommet du pouvoir n'est nullement élu, et donc on ne peut pas véritablement parler de mandat. Il a effectivement changé la constitution pour pouvoir, disons, rester au pouvoir virtuellement à vie, mais on ne peut absolument pas parler de processus d'élection et encore moins de mandat.
Thomas Gomard, est-ce que les la Chine de Xi Jinping nous souhaite unis ou désunis en tant qu'Européens ?
C'est une question difficile parce qu'elle accorde de l'importance à l'Union européenne comme entité politique et comme marché. Et en même temps, dans votre introduction, Astrid de Villene, vous rappeliez le récent voyage du président Macron en Chine. Il aurait aimé être accompagné de la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, comme ça avait été le cas auparavant, et ça n'a pas été possible. Et donc on peut l'interpréter peut-être par un souci des autorités chinoises, effectivement, de s'adresser plutôt aux capitales européennes qu'à l'Union européenne, qui a la compétence en matière commerciale. Après, je pense qu'il y a quelque chose d'un peu spécifique dans le rapport entre la Chine et la France, c'est que la Chine voit la France sur un plan diplomatique comme membre permanent du Conseil de sécurité. Et donc ça conserve une certaine importance, même si évidemment les structures onusiennes sont dans un état de, je dirais, marginalisation par rapport à la gestion de crise. Mais c'est peut-être au fond l'aspect un peu singulier qui est observé par Pékin aujourd'hui vis-à-vis de Paris. Plus largement, je pense que le grand sujet pour les autorités chinoises aujourd'hui, c'est que le marché américain, après la décision de l'administration Trump de mettre en place des barrières tarifaires, vous avez un déport, c'est-à-dire que vous avez une réduction assez significative des exportations chinoises vers les États-Unis qui s'observe, c'est de l'ordre de 15%, et une augmentation des exportations de la Chine vers le marché européen qui est de l'ordre de 10%. Donc c'est probablement ces grandes tendances qu'il faut essayer d'analyser.
Sylvie Kaufmann.
Oui, mais je crois que malheureusement pour l'Europe, la visite du président Macron en Chine a montré une fois encore que finalement les Européens n'ont pas la taille et le poids qu'ils souhaiteraient avoir vis-à-vis de la Chine. Et il y a eu un espoir à un moment que, vu l'arrivée du président Trump, le retour du président Trump à la Maison Blanche, son attitude vis-à-vis de la Chine provoquerait une sorte de rapprochement entre l'Union européenne et la Chine. Et en réalité, ça s'est pas produit. Alors, c'est pas le seul fait de la France. Hein. C'est, je pense que c'est plutôt Pékin là qui vous posiez la question comment nous voit Pékin. Visiblement, il nous considère pas comme un acteur égal qui a un poids égal à celui de la Chine sur la scène mondiale. Et alors, évidemment, il y a toujours une préférence pour le traitement bilatéral. C'est vrai que par ailleurs, on s'y prête aussi à ce traitement, puisqu'on y va en ordre dispersé encore, même si je crois qu'on comprend mieux que l'Europe doit essayer de jouer un rôle plutôt unitaire et que la politique commerciale dépend de Bruxelles. Mais là, finalement, on voit que Pékin n'a pas profité, n'a pas mis à profit cet écart et ce désamour un peu qu'il y a, ces conflits qu'il y a entre l'Europe et les États-Unis, et visiblement pense que les Européens restent dans l'orbite américaine et que donc ça n'est pas la peine de traiter l'Europe en acteur indépendant. Et ça s'est vu aussi notamment pendant la COP30 à Belém, où là aussi on a pensé qu'il y aurait un vrai rapprochement entre l'Europe et la Chine pour des politiques parallèles ou qui se rejoignent, et ça ne s'est pas passé. Visiblement, Pékin n'est pas intéressé par une relation privilégiée avec l'Europe.
Nicolas Chapuis, on a célébré cette année les 50 ans de relations Union européenne-Chine. C'était peut-être l'un de vos lointains prédécesseurs, je ne sais pas, le gendre de Winston Churchill, Christophe Soames, qui avait scellé le début. On prononce comment ?
Soames,
pardon, c'est un Britannique en effet. Soames. Il avait scellé le début des relations entre l'Europe et la Chine de Mao en 1975. Que peut-on dire de cette moitié de siècle et des années qui arrivent ?
On peut dire plusieurs choses. La première, c'est que l'Union, aujourd'hui 27 pays, 27 États membres, s'est progressivement, pendant 50 ans, imposée dans l'imaginaire chinois. Comme le disait Sylvie Kaufmann, la Chine, qui est un primo-État vespalien. La Chine est un État-nation récent, contrairement à nous. Nous sommes de vieux États-nations en Europe. Et l'Union européenne est une construction post-vespalienne. Pour nous, la souveraineté, elle se construit par solidarité de valeurs et quelque chose que la Chine a du mal à saisir, étant elle-même un État-nation naissant sur les décombres des empires. On reviendra peut-être là-dessus. Et donc, l'Union européenne en tant qu'union, passant des communautés à l'union, s'est imposée dans l'imaginaire chinois. Et la question a vraiment été, pour revenir à votre première question, souhaite-t-elle nous voir unis ou désunis ? Tant qu'on n'était qu'un marché unique, évidemment que la Chine voulait qu'on reste unis. Une seule barrière tarifaire, un grand marché pour développer sa présence, mais sur le plan politique, elle n'a jamais vu l'union comme une construction politique. Et moi, ayant été ambassadeur de l'Union européenne il y a quelques années, mon job principal a été de construire l'unité politique des 27 ambassadeurs vis-à-vis des Chinois, pour une simple raison, qui est que, comme le disait également ce Vivi Kaufmann, le problème est celui de l'échelle. Comment peser vis-à-vis d'un État d'1,5 milliard d'habitants ? Comment exister autrement que par des relations bilatérales où la Chine nous voit, l'Italie, la France, l'Allemagne, la République tchèque, l'Espagne, comme des endroits où les jeunes Chinois font du tourisme. Nous sommes un gigantesque parc d'attractions. Ce que l'on peut dire aujourd'hui, troisième point, c'est que pour la Chine, il n'y a qu'un seul partenaire international. C'est pas la Russie, c'est pas l'Union européenne, certainement pas la France. C'est, et ça sera, les États-Unis jusqu'au jour où la Chine, telle qu'elle existe à présent, aura l'ascendant. Ce qui structure aujourd'hui la pensée chinoise du régime de Xi Jinping, c'est cette confrontation inéluctable avec l'Amérique. Comment on passe de la Pax Americana, qui est en train de se désagréger, à cause de Washington d'ailleurs, à la Pax Sinica. Ça, c'est l'objectif chinois aujourd'hui. Et donc, nous, Européens, on est considérés largement, je dirais, comme des has-been. Nous sommes un gigantesque parc d'attractions, le Disneyland où tous les jeunes Chinois veulent venir se marier dans nos châteaux, mais pas beaucoup plus que cela, en dehors, évidemment, du marché.
Oui.
La nation chinoise est une grande nation qui ne cède jamais à la force et qui se renforce toujours en toute indépendance. Dans la lutte qui opposait le bien au mal, les lumières aux ténèbres et le progrès à la réaction, le peuple chinois, uni face à l'ennemi, s'est battu pour la survie du pays, le renouveau de la nation et la justice de l'humanité. Aujourd'hui, l'humanité est de nouveau placée devant le choix entre la paix et la guerre, entre le dialogue et la confrontation, entre le gagnant-gagnant et le jeu à somme nulle. Le peuple chinois se tiendra résolument du bon côté de l'histoire et du côté du progrès de la civilisation humaine, poursuivra la voie du développement pacifique et travaillera main dans la main avec tous les autres peuples du monde pour construire une communauté d'avenir partagé pour l'humanité.
Xi Jinping, président de la République populaire de Chine, lors de la commémoration du 80e anniversaire de la victoire contre le Japon le 3 septembre dernier, lors d'une parade militaire où Vladimir Poutine et Kim Jong-un étaient les invités d'honneur. Et j'aimerais citer les propos de Confucius, Han Cheng, que vous écrivez en introduction de ce dernier livre, Pensée en résistance dans la Chine d'aujourd'hui, qui vient de paraître en poche. Un de ses disciples qui lui demande assez de vivres, assez d'armes et la confiance du peuple, s'il fallait se passer de l'une de ces trois choses, quelle serait-elle ? Il répond des armes. Pour quelle raison ?
Oui, alors donc dans ce dialogue que je cite en entrée de cet avant-propos, à ce volume qui représente le troisième d'une trilogie, que j'ai coordonné chez Gallimard, d'abord avec Éric Vigne, et le dernier donc en collaboration avec Chloé Froissart. Donc je rappelle justement cet ordre de priorité qui est affirmé par Confucius, parce que le grand leader en fait aime beaucoup aussi citer Confucius, mais bizarrement pas ce passage-là où Confucius en fait rétablit son ordre de priorité à lui, c'est-à-dire que pour lui en fait la puissance militaire c'est pas primordial, même la prospérité économique, c'est-à-dire nourrir le peuple, on peut éventuellement s'en passer parce que, dit-il, les êtres humains sont voués à la mort de toute façon. Mais ce sans quoi un État ne peut pas tenir, c'est la confiance du peuple. Et ça, j'aimerais bien justement que le grand leader puisse se souvenir de cet ordre de priorité, parce que dans le discours que nous venons d'écouter, il y a évidemment un accent extrêmement martial, mais ce qui est voulu bien sûr aussi par les circonstances de ce discours. Il s'agit de célébrer la victoire sur le Japon. Ça rappelle aussi les grandes cérémonies de Poutine, enfin quand il célèbre la victoire, soi-disant sur le nazisme. Donc le ton est martial, mais en réalité ça rappelle aussi en fait ce qui fait effectivement le fond de la culture communiste révolutionnaire, c'est justement la conquête du pouvoir par la violence, par la rupture, la guerre au fond. Actuellement nous sommes dans un monde où même les puissances démocratiques libérales qui étaient censées être justement le phare du monde libre, évidemment je parle des États-Unis d'Amérique, même eux en fait se placent justement dans cette logique conflictuelle, c'est-à-dire que il y a maintenant en fait cette espèce de face à face dans lequel nous autres Européens en fait nous comme ça a été dit précédemment, nous pesons très peu.
Affrontement, nous a dit Nicolas Chapuis. Face à face, nous dit Anne Cheng. Quelle est la terminologie que vous utiliseriez, Thomas Gomard, pour expliquer ce face à face vis-à-vis des États-Unis? Et surtout, comment lisez-vous, comment faut-il comprendre ce défilé militaire avec, je le rappelle, du matériel militaire de pointe qui a été exhibé en septembre?
Moi, je l'explique en essayant de lire, évidemment, les discours du grand leader. Il y en a un qui m'a beaucoup frappé, qui fait le lien avec l'extrait que vous avez diffusé, qui est le discours qu'il a prononcé à Kazan lors du sommet des BRICS en octobre 2024. Et il a une référence que j'ai relevée, puisque moi, au départ, mon métier était de suivre très précisément l'URSS et la Russie, et donc c'est un peu par cette voie-là que j'essaie de comprendre ce qui se passe en Chine. Mais il a cité Tchernyshevsky. Tchernyshevsky est l'auteur qui a inspiré Lénine, avec la fameuse question de Lénine, que faire ? Tchernyshevsky avait fait un livre qui s'appelait « Que faire, l'homme nouveau ?» qui est une référence utilisée par le président Xi, et qui rappelle, au fond, la matrice marxiste-léniniste de la République populaire de Chine. C'est-à-dire que je crois qu'il faut bien avoir en tête les horizons de temps qui sont ceux des dirigeants chinois, à la fois l'aspect séculaire, les références à Confucius, comme vous le rappeliez, et puis surtout la création en 1949 de la République populaire de Chine, avec un horizon de temps qui est 2049, au fond. C'est-à-dire, où est-ce que la Chine doit se situer sur la scène internationale à cet horizon? Et de ce point de vue-là, c'est est-ce que effectivement la Chine sera la puissance dominante? En fait, c'est ça la question fondamentale, et par rapport aux États-Unis, je rejoins volontiers l'analyse de Nicolas Chapuis sur ce point, c'est-à-dire que la dialectique, c'est par rapport aux États-Unis, c'est pas du tout par rapport à l'Europe et encore moins par rapport à la Russie. La Russie étant au fond dans une forme de vassalisation accélérée vis-à-vis de la Chine, parce que je pense qu'il y a un choc intellectuel pour les autorités chinoises qui est la chute de l'URSS en 1991 et l'explosion du Parti communiste soviétique, qui est précisément ce qui ne doit jamais advenir en Chine. Et de ce point de vue-là, il y a ce qui est frappant avec le président Xi, qui est dans une perspective, à l'instar du président Poutine, de continuité et d'éternité, puisqu'il a changé les règles du jeu comme le président Poutine. Il y a cette idée, au fond, d'un projet global qui s'est traduit notamment par ce qu'on a appelé le projet de route de la soie, et qui est une vision géopolitique, même si le terme a longtemps été interdit en Chine, parce qu'un communiste ne peut pas être impérialiste dans l'idéologie. En réalité, il y a un projet global qui est mis en œuvre.
Sylvie Kaufmann.
Oui, pour compléter ce que vient de dire Thomas Gomard, ce moment du 3 septembre de ce fameux défilé militaire et la séquence qu'il clôt, en fait, qui a commencé avec ce sommet à Tianjin. Alors Tianjin, pour ceux qui connaissent la Chine mieux que moi, c'est aussi un endroit chargé de symboles historiques pour la Chine. Mais il y a eu ce sommet de l'Organisation de coopération de Shanghai, où il y a eu notamment, même Narendra Modi, le numéro un indien, était venu. C'était vraiment là une manifestation de la puissance chinoise sur la scène internationale, qui était présentée comme une sorte d'alternative à la puissance américaine et ceux qui se regroupaient autour des États-Unis jusque-là. Donc on a ce sommet à Tianjin, on a ce défilé, cette manifestation de la puissance militaire chinoise à Pékin. Et finalement, tout ça nous présente une Chine qui a repris vraiment... énormément confiance en elle, plus que ça, qui manifeste sa puissance alors qu'elle a passé le creux du Covid. Rappelez-vous qu'il y a 5 ans ou même 4 ans, la Chine avait une très mauvaise image. Elle avait très mal géré le Covid. Elle a accusé le coup économiquement. Et là, elle a visiblement repris du poil de la bête, si on peut dire, au moment où les États-Unis, eux, sont plutôt dans une dynamique de retrait de la scène internationale, en tout cas du système international, donc qui libère un espace que la Chine va bien entendu s'empresser d'occuper et s'empresse déjà d'occuper. Et puis il y a quelques moments aussi qui jalonnent cette montée en puissance de la Chine sur la scène internationale et cette image de confiance retrouvée et réaffirmée. C'est le moment DIP, ce qu'on a appelé le moment DIPSIC au début de l'année, où une petite start-up chinoise, une start-up chinoise qui n'a pas les moyens des géants numériques de la Silicon Valley, arrive à produire un modèle d'intelligence artificielle avec vraiment des petits moyens. Et les Américains sont totalement stupéfaits, que ce soit Wall Street ou la Silicon Valley. Vraiment, là, on accuse le coup et on dit, mais en fait, ils font mieux que nous avec beaucoup moins de moyens. Donc là, il y a quelque chose qui se passe et qui évidemment ravit les Chinois. Il y a donc cette séquence diplomatique de fin août, début septembre. Et puis, il y a un autre moment qui est passé peut-être plus inaperçu et qui est tout récent, après la visite du président Macron d'ailleurs à Pékin, c'est que la Chine a battu le record de la balance commerciale excédentaire. Elle a atteint maintenant 1 000 milliards de dollars pour les marchandises. Et ça malgré les taxes douanières imposées par les Américains, malgré nos taxes sur les véhicules électriques qui ne fonctionnent pas, puisque en fait les exportations vis-à-vis de l'Union européenne se poursuivent. Donc il y a aussi cette attitude vis-à-vis des États-Unis, cette offensive américaine de Donald Trump que la Chine a réussi à repousser, puisque Donald Trump avait menacé la Chine d'une hausse des taxes douanières de 145%, une hausse de 145%, et que la Chine a riposté en disant très bien, ben nous on arrête les exportations de terres rares, ou on réduit les exportations de terres rares. Et donc, ce qui a montré aussi la supériorité écrasante de la Chine dans ce domaine des terres rares, des minéraux critiques, etc. Et finalement, les États-Unis ont reculé. Donc c'est une année qui, du point de vue de la Chine et de l'étalage de sa puissance sur la scène mondiale, est très, très positive pour Pékin.
Nicolas Chapuis, j'aimerais vous entendre sur la déclaration qu'on vient d'écouter ensemble de Xi Jinping, et notamment ces mots « L'humanité est de nouveau placée devant le choix entre la paix et la guerre, le dialogue et la confrontation, le gagnant-gagnant et le jeu à somme nulle ». Comment comprenez-vous cette expression ?
Que pour Xi Jinping, et il l'a dit d'ailleurs plusieurs fois, y compris avec Vladimir Poutine, ils sont d'accord là-dessus, il y a le sentiment qu'une nouvelle ère se profile. Dans le chaos général, la fin de la mondialisation heureuse, la fragmentation de l'ordre international, aujourd'hui, l'ordre post-1945 est en train de se diluer, de se fragmenter. Et donc, les Chinois, qui, ne l'oublions pas, hein, depuis 1840, la guerre de l'opium, cherche le moyen de reconstituer la prospérité et la puissance, comme on dit en chinois. Ce que Xi Jinping appelle le rêve chinois, c'est de redevenir la première puissance mondiale, économique, culturelle, politique qu'ils étaient en 1839, avant que les Britanniques forcent l'entrée des ports chinois. Et ce sentiment d'opportunité que, dans le chaos général, il y a la possibilité de construire un nouvel ordre. Ce qu'il appelle, à la fin du passage que nous avons entendu, cette communauté de destin. Cette communauté de destin, pour l'humanité, c'est celle où le pater familias de la communauté est évidemment la Chine, où toutes les routes vont à Pékin comme elles allaient à Rome autrefois, hein, les fameuses routes de la soie, où les dirigeants du monde entier viendront à Pékin quémander le soutien de la Chine, comme l'a fait Emmanuel Macron, hein, dans une posture finalement assez étrange où il est venu demander à Xi Jinping, s'il vous plaît, investissez chez nous. Hein, comme nous avons investi chez vous, maintenant, venez transférer vos technologies vertes chez nous. Xi Jinping excelle là-dessus. Pour revenir très brièvement au 50e anniversaire des relations euro-chinoises, moi ce qui m'a le plus frappé, c'est que c'était au tour de Xi Jinping de venir à Bruxelles l'été dernier. Il a refusé en disant « Moi, le niveau des relations avec les Européens, c'est le Premier ministre, c'est pas moi. Donc je vous envoie le Premier ministre. » Et Ursula von der Leyen a dit non. Costa a dit non. Et à ce moment-là, ils ont décidé à Bruxelles d'aller à Pékin. Et donc on a cette image épouvantable de l'été 2025, où d'un côté, von der Leyen va en Écosse s'agenouiller devant Trump, et où les mêmes, fin juillet, vont à Pékin s'agenouiller devant Xi. Dans quel monde vivons-nous ? Hein, c'est la question qu'on doit se poser aujourd'hui. Est-ce que ce retour des empires, et notamment l'empire chinois, que Han Cheng a bien décrit, hein, cette continuité, c'est moins le parti communiste, le système orwellien qui se reconstitue aujourd'hui à Pékin, que le retour à ce sinocentrisme, à cette idée que la Chine est grande, le Japon est petit, hein, comme on apprend aux écoliers chinois, hein, hein, ou que le destin de la Chine n'est pas le destin d'une nation, c'est le destin du monde. D'être civilisé, d'être sinisé, comme les Ouïghours, les Mongols, les Tibétains, viendront le tour des Américains et des Européens.
Han Cheng, sur ce point, est peut-être la place de la notion de puissance dans la pensée chinoise, si vous pouvez nous en dire un mot.
Bon, écoutez, là, je crois qu'on en prend pour...
On peut bien sûr entendre vos cours au Collège de France pour compléter sur YouTube. Ils sont disponibles. Je les ai écoutés avec attention, mais en quelques mots.
Non, en effet. Enfin, moi, je prendrais simplement le prolongement de ce que vient de dire Monsieur l'ambassadeur, parce que pour moi, Nicolas Chapuis, c'est ça d'abord, et aussi le grand traducteur du poète Tofu pour cette collection des budés chinois des belles lettres. Donc, il a ces deux casquettes pour moi. Mais je me souviens justement de l'avoir entendu en pleine période du Covid. Enfin, en tout cas, il était encore confiné à Pékin, dans son bureau, et a fait une intervention en visioconférence dans un colloque que nous tenions au Collège de France, justement sur les rapports de l'Europe avec le monde. Et donc, il a parlé de la Chine à ce moment-là, et il a dit très justement que quand la Chine parle de multilatéralisme, en réalité, elle a en tête la Chine plus un. Voilà, c'est ça sa définition du multilatéralisme.
Donc, qu'est-ce que vous voulez dire par la Chine plus un, Nicolas Chapuis?
Pour la Chine, il n'y a pas le seul multilatéralisme viable, c'est celui qui tourne autour de Pékin.
C'est un bilatéralisme.
Donc c'est moi plus Trump, moi plus l'Afrique, moi plus l'Asie du Sud-Est, éventuellement moi plus le Japon. Mais enfin, comme disent les Chinois, Je veux choquer personne, mais c'est une plaisanterie chinoise, hein. Et l'actualité peut nous servir là-dessus. C'est que le jour où un tsunami submergera le Japon, personne s'en rendra compte.
Oui.
Voilà.
Han Cheng.
Oui, alors effectivement, là, je crois que Nicolas Chapuis a tout à fait raison de dire que actuellement, ce qui porte le grand leader, justement, malgré tous les problèmes qui l'accablent, enfin surtout dans la période post-Covid, c'est précisément qu'il peut se poser véritablement comme une sorte de nouvel empereur qui rétablit justement cette centralité chinoise que moi, pour ma part, j'ai toujours combattue. Hein, mon livre au CNRS s'appelle « Désorienter la Chine », mais pourrait s'intituler « Décentraliser la Chine », parce que je m'évertue à rappeler que nous laissons gagner justement par cette espèce de binarisme qui est tellement satisfaisant pour l'esprit, mais qui est en réalité dangereux, je pense, pour l'analyse de la réalité des choses. C'est que nous oublions malgré tout que la Chine est à resituer dans un contexte non seulement mondial, mais un contexte régional. Et à ce titre, on oublie justement les grands voisins, c'est-à-dire le Japon d'un côté, l'Inde de l'autre. Bon, et là, je pense qu'on se trompe en faisant ça, parce que je pense que la Chine est arrivée à une sorte de sommet, de plateau. Et comme le dirait le Lao Tzu, hein, le Tao Te Ching, hein, quand on arrive au sommet, on ne peut que redescendre. Bon, alors que par ailleurs, dans le monde, vous avez en fait des secteurs de l'humanité qui sont en train de monter. Enfin, vous avez l'Inde, mais aussi vous avez à plus long terme l'Afrique. Et donc moi, je pense que notre rôle serait aussi de tenir ça en compte au lieu de rester le nez sur ce qui s'est passé hier.
Sylvie Kaufmann.
Oui, tout à fait. Parce que je parlais tout à l'heure de l'ascension assez spectaculaire de la Chine et de la manière dont elle affirme sa confiance en elle-même sur la scène internationale. Mais il y a aussi, suivre de ce que vous dites, c'est ce que dit Han Cheng, c'est les réticences qu'on observe quand même de la part des partenaires, même si l'Europe paraît faible, les États-Unis paraissent se reconcentrer sur l'hémisphère occidental, etc. Il y a quand même des réticences très claires qui se font jour parmi les partenaires des BRICS, notamment, hein, que ça soit, bien sûr, il y a toujours l'Inde a toujours cette relation très complexe avec la Chine. Mais même le Brésil, bien sûr, la Russie, à cause de sa guerre en Ukraine, est dans une situation de vassalisation très très claire. Mais les autres partenaires sont plus. On observe quand même une grande méfiance. Et puis il y a aussi cette de la même manière en Europe aussi. Hein, avec, on a bien vu ces réactions sur. On se sent totalement submergé par ces produits commerciaux chinois. L'épisode français sur Shine, etc. Mais les véhicules électriques, bien entendu. Mais ce qu'on voit aussi, c'est quand même cette réaction au soi-disant soft power chinois qui est imposé. On a bien vu comment il y a eu une opposition à la montée de ces instituts Confucius dont les universités occidentales ont vraiment fait marche en arrière, ont compris qu'il s'agissait en fait de contrôler toutes les études de sinologie dans les universités américaines ou européennes, et donc beaucoup de ces instituts Confucius ont été fermés. Donc il y a quand même, ça n'est pas une poussée sans aucune résistance.
Thomas Gomard.
Je pense que un point à avoir à l'esprit quand même, c'est la situation et l'évolution démographique de la Chine. C'est-à-dire qu'il y a vraiment quelque chose qui va se jouer dans les deux décennies à venir par rapport aux États-Unis. Mais on a un pays vieillissant. Vous avez un livre qui a rencontré un large écho de Dan Wang qui s'appelle Breakneck, qui multiplie les chiffres sur l'ascension chinoise avec des chiffres extrêmement spectaculaires. Il rappelle par exemple que en 1990, la Chine compte 500 000 automobiles, elle en compte aujourd'hui 435 millions. Il multiplie les chiffres de cette nature en disant qu'aujourd'hui la Chine consomme plus de charbon, elle fait des technologies bas carbone, mais elles ont plus de charbon que l'ensemble du monde réuni. Et puis, il donne un autre chiffre que je trouve aussi intéressant à relever, c'est qu'en 2025, on vend en Chine plus de couches pour adultes que pour enfants, ce qui est un indicateur parmi d'autres, mais qui montre bien le vieillissement accéléré de la population chinoise et le déséquilibre qui est en train de se créer effectivement avec l'Inde. C'est-à-dire que, dans le même temps, on a une Inde qui est désormais le pays le plus peuplé au monde et qui peut utiliser son dividende démographique dans les deux décennies qui viennent. L'Inde y parviendra-t-elle ? Ça, c'est une question ouverte, mais ça montre bien effectivement qu'il y a probablement un moment d'opportunité pour la Chine dans sa capacité à imposer cette image d'une domination au moment où les États-Unis sont caractérisés par le comportement plus qu'erratique de leur président. Et donc, à mon avis, en termes d'anticipation, c'est effectivement important de voir comment ce moment d'opportunité va être exploité, tout en gardant les perspectives et de se rendre compte que la Russie, la Chine, le lapsus est révélateur, que la Chine en 2049 ne sera pas forcément dans la situation qu'elle souhaite aujourd'hui.
France Culture, l'esprit public, Astrid de Villene.
Merci d'être avec nous ce matin sur France Culture. Nous nous intéressons à la Chine en compagnie d'Anne Cheng, la sinologue, professeure au Collège de France, de Nicolas Chapuis, l'ancien ambassadeur de l'Union européenne en Chine et traducteur du poète chinois Du Fu, de Sylvie Gomard, journaliste.
Non.
Sylvie Kaufmann, j'ai fait un mélange de vous deux, Sylvie Kaufmann, éditorialiste au Monde, et Thomas Gomard, directeur de l'IFRI, excusez-moi, on pourrait vous mélanger, ils sont souvent avec nous tous les deux. Alors, on a bien compris la vision chinoise de l'Union européenne, on a vu aussi leur façon de s'opposer aux États-Unis, de s'imposer comme puissance. J'aimerais qu'on parle un petit peu du plan intérieur que vous connaissez bien, Nicolas Chapuis. Que peut-on dire aujourd'hui de la population et de sa place dans le débat que nous avons?
Pour faire bref, on pourrait en parler pendant des heures.
Allez-y, on a le temps dans cette émission.
Dans un pays d'un milliard et demi d'habitants, il se passe plein de choses. Point 1, la Chine, ce n'est pas le régime. Je crois qu'on a tendance à l'oublier beaucoup en Europe. On identifie Xi Jinping à la Chine. Non. La Chine, elle est terriblement diverse. Vu sa taille, les dynamiques régionales. Il faut comprendre qu'un habitant du Sichuan, au sud-ouest de la Chine, parle pas vraiment la même langue qu'un Shanghaïen. Bon, donc cette diversité. Et dans cette diversité, évidemment, tout le monde n'est pas au pas, même si le régime impérial chinois dit « le parti dirige tout », « la vérité, celle du parti », Orwell, quoi. Sur le terrain, moi, ce que j'ai vécu en étant près de 25 ans en poste en Chine, dans différentes fonctions, c'est la remarquable vitalité de l'esprit chinois. Et le Covid a été un révélateur extraordinaire de toutes ces tensions. Moi, je me rappelle d'une séquence qui a été assez passée sous silence en Europe, où à l'époque, donc, les Chinois étaient confinés dans leurs appartements, ils ne pouvaient pas sortir, et vous aviez ces hommes en scaphandre blanc venant vérifier dans les appartements qu'il n'y avait pas d'entorse au confinement. Et il y avait cette mini-vidéo qui était sur les réseaux sociaux chinois. On voyait ces policiers vêtus de blanc venir harceler un jeune couple chinois à Shanghai. Et le garçon, qui devait avoir, je sais pas, 23, 24 ans, devant sa femme, se révolte. Et c'est filmé par la femme. Et il dit, écoutez, vous pouvez, moi, m'empêcher de vivre. Vous pouvez m'empêcher de penser. Vous pouvez m'empêcher d'être, d'exister, mais je vous préviens, nous sommes la dernière génération, et vous, je ne ferai pas d'enfants, et vous régnerez sur le vide. Et donc on est passé de la génération perdue de la révolution culturelle, Lost Generation, à la dernière génération. Last generation. Et vous avez des appels en Chine aujourd'hui à dire restez couchés.
Tangping.
Tangping. Restez couché. Vous levez pas. Pourquoi faire? Ce régime n'est pas l'avenir de la Chine. Et c'est ce que montre le bouquin d'An Cheng.
Pensez en résistance en Chine.
Pensez en résistance en Chine aujourd'hui. Le nombre de Chinois, jeunes et moins jeunes, que j'ai rencontrés, notamment ceux qui sont nés après la révolution culturelle, après 1976, tous ces jeunes, ils regardent quoi? Ils regardaient l'Europe autrefois, terre de liberté, la Révolution française, Montesquieu, Voltaire, Diderot. Mais aujourd'hui, ils regardent qui? Ils regardent Taïwan. Parce que la Chine démocratique, elle existe. Elle est à Taïwan. Donc quand Xi Jinping prétend que seul le Parti communiste chinois peut faire prospérer la nouvelle Chine, parce qu'il y a ce fameux slogan « Sans le Parti communiste, pas de Chine nouvelle », c'est une chanson populaire en Chine. Il y a un démenti quotidien qui est Taïwan. La Chine démocratique, elle existe.
An Cheng.
Oui, je ne sais pas exactement si toute la jeunesse chinoise continentale regarde vers Taïwan. Je pense que, comme toutes les jeunesses du monde entier, on regarde plutôt, en fait, de la culture, disons, d'origine américaine. Enfin, je veux dire, bon, ça, c'est ce qui prédomine dans les contenus que les jeunes regardent. Mais il y a effectivement, en fait, bon, ce raccourci de la lost generation à la last generation, c'est assez raccourci, mais il y a du vrai dedans. C'est-à-dire que actuellement nous avons une jeunesse qui non seulement est en grande partie au chômage, dans la
20%
réalité des faits. 20% c'est le chiffre officiel, mais ça c'est les avantages de la dictature, c'est que la Chine ne donne plus les chiffres. Comme ça, au moins il n'y a pas de discussion possible. Mais c'est les chiffres sont bien supérieurs. Enfin, je veux dire, quand on sait un jeune qui habite chez ses parents, en fait, c'est considéré comme une profession. Vous êtes un fils à la maison, un tanguy professionnel. Tanguy. Donc voilà. Donc ça ne rentre pas dans les chiffres du chômage. Donc là, on a effectivement un signal qui devrait inquiéter les autorités. En tout cas, j'espère que ça le fait. On a cette jeunesse qui dit volontiers qu'elle n'a plus d'avenir. Alors il y en a qui disent ça, enfin qui se tramping, c'est-à-dire qui reste couché, hein, au lieu de se tuer au travail. Alors il y en a d'autres. Alors ça, c'est, je pense que c'est spécifiquement chinois. Enfin, c'est une petite blague en passant, hein, mais c'est réel. Vous avez des jeunes Chinois qui sont au chômage, mais qui habitent chez leurs parents et qui en fait payent pour faire semblant d'avoir un job, vous comprenez? C'est-à-dire qui vont dans un endroit où ils font semblant d'avoir un job et ils payent pour ça. Alors moi je pense que ça, c'est une vraie spécificité chinoise. Je crois que nulle part ailleurs on ne trouve ça. Moi ça me frappe beaucoup, mais ça vous indique effectivement. Alors tout à l'heure Thomas Gomard parlait du dividende démographique indien. Je pense pas que ce soit en fait le seul atout de l'Inde, parce que l'Inde, malgré tout, et les élites indiennes sont parfaitement anglophones depuis des générations, hein, des décennies, et donc sont parfaitement intégrés, eux, dans l'ordre mondial, ce qui n'est pas le cas de la Chine. Donc, encore une fois, j'aimerais qu'on puisse ouvrir un petit peu la perspective, parce que je dois dire, bon, je me lâche un petit peu, hein, j'en ai assez d'entendre parler de la Chine comme si c'était une espèce d'entité en soi. Enfin, je veux dire, bon,
oui, et c'est bien pour ça qu'on voulait en parler, parce qu'en effet, on a tendance à la résumer très rapidement. Mais moi, en vous écoutant tous les deux, An Cheng et Nicolas Chapuis, j'ai du mal à comprendre. On a l'impression presque que le régime serait en train de vaciller, que les Chinois seraient des nouveaux, comme les Européens, à vouloir compter sur leur congé payé. C'est pas vraiment ce que les entrepreneurs européens, quand ils vont là-bas, voient aussi dans les usines.
Non, la Chine est une cocotte minute.
Nicolas Chapuis.
La Chine est une cocotte minute, mais depuis longtemps. La révolution culturelle qui a été cette tragédie épouvantable, hein, 35 millions de morts, faut pas l'oublier quand même, hein, a créé les conditions du sursaut chinois. C'est-à-dire pour survivre, il fallait s'ouvrir, il fallait changer les choses. C'était le régime de Deng Xiaoping. Bon, et Deng a réussi malgré Tiananmen, il a réussi. Xi Jinping a conquis le pouvoir, il n'avait pas été élu, ça a été un coup d'État, hein, en réalité, au sein du parti. Il a pris le pouvoir en disant, maintenant, ça suffit, quoi. Hein. Tous ces étrangers qui veulent nous dire comment on va se conduire, ça va pas. Bon. Donc, on va dire qui on est, et puis tout le monde au pas. Bon. Mais la réalité, c'est que ce pays est traversé de tensions depuis toujours, et que il n'a pas trouvé la solution. Aujourd'hui, cet immense État à trouver autre chose que la sécurité nationale, prime par-dessus tout, la sécurité intérieure. Et d'ailleurs, pendant longtemps, Thomas Gomard pourrait, qui a été souvent à Pékin écouter les experts chinois, pourrait partager cette idée que, en Chine, pendant longtemps, il n'y a pas eu de politique étrangère. La seule politique qui intéresse le parti, c'est la politique intérieure. Et ces ambassadeurs n'avaient que trois sujets à débattre à Paris, à Washington ou à Moscou. Ce qu'on appelait les trois T. Taïwan, le Tibet, Tiananmen. Mm. C'est-à-dire trois sujets intérieurs en réalité. Et la Chine, c'est ça qui est nouveau, c'est que pour surmonter ces difficultés intérieures, pour éviter l'embrasement général, pour éviter le démembrement du Parti communiste chinois, pour éviter que 31 ou 40 républiques naissent en Chine, ce qui est un peu le rêve des Sichuanais, des Shanghaïens, des Mongols, des Tibétains. Après tout, pourquoi ne pas être indépendant? Le Sichuan, c'est deux fois l'Allemagne.
Hein? Plus les pandas.
Voilà. Bon. Donc, pour éviter ça, la Chine, finalement, s'est trouvé un nouveau rêve. Pour rétablir l'Empire, il faut avoir une position centrale dominante. Est-ce que les Chinois, les jeunes Chinois en particulier, sont d'accord pour se battre sur cet autel-là? Moi, j'en doute beaucoup.
Thomas Gomard, là-dessus, et puis peut-être sur la région, puisqu'on arrive bientôt au terme de cette émission. Est-ce que les tensions avec le Japon, qui sont anciennes, n'ont pas été aussi ravivées par l'arrivée de la nouvelle première ministre japonaise, il y a deux mois tout pile, en octobre, Sanae Takaishi?
Ça, sans doute, on est dans une phase de tension élevée, mais là aussi, ce sont des résurgences, puisque en préparant cette émission, je suis retombé sur un discours de Shinzo Abe, donc l'ancien Premier ministre japonais qui a été abattu depuis, qui a fait un discours en 2010 au Hudson Institute à Washington, qui est un think tank dans la galaxie, on va dire, très, très républicain, et qui parle en fait de l'espace stratégique de la Chine et le comparant à l'espace vital. Utilisant, faisant un parallèle très clair avec la notion d'espace vital telle que la géopolitique allemande a pu produire ce concept. Et partant de là, j'encourage tout le monde à lire les travaux de Nadège Roland, qui a fait un travail sur, qui est une chercheuse française vivant aux États-Unis, qui a fait un travail sur la manière dont la vision du monde de la Chine s'est reconstruite depuis les années 80 autour de cette idée géopolitique. Et je crois que ce qui est le plus intéressant à mon sens, c'est d'observer le fait que on a une tradition géopolitique continentale qui était assez portée par Mao. Nicolas Chapuis a rappelé l'importance de Deng Xiaoping qui a ouvert le pays. Cette ouverture au début des années 80, à mon avis, explique aussi la vague d'ultralibéralisme qui a suivi, portée par Reagan et Thatcher. C'est-à-dire qu'au fond, ça a été un relais pour la croissance mondiale et l'idée d'un capitalisme global, cette remarquable, au sens rapidité, ascension économique de la Chine. Et puis, avec Xi Jinping, il y a quelque chose d'extrêmement ambitieux. Alors, ce qui est très intéressant, c'est effectivement la remarque de Nicolas Chapuis sur le régime n'est pas la Chine. On pourrait faire cette observation dans bon nombre de cas, d'ailleurs. Le Kremlin n'est pas la Russie. Mais c'est cette tentative, au fond, de combiner une approche approche continentale et maritime. Je crois que c'est ça ce que François Gipoulou appelle le basculement thalassocratique de la Chine. Est-ce que la Chine va parvenir, au fond, à sortir de cette vision continentale, à aller vers le monde? En tout cas, force est de reconnaître qu'elle obtient un certain nombre de succès en ce sens, même si effectivement les conséquences sur la population et sur la jeunesse sont plus difficiles pour moi à percer.
Sylvie Kaufmann, là-dessus, et peut-être ajouter à notre débat le rapport de la Chine aux cartes, hein, puisque vous avez sans doute vu que le ministère chinois des ressources naturelles a mis en ligne en 2023 une nouvelle carte officielle du pays qui est un tracé en fait un peu arbitraire et qui empiète sur d'autres puissances, l'Inde, la Malaisie, les Philippines, le Vietnam et bien sûr Taïwan, avec le rôle de ces îles aussi, Senkaku, Diaoyu, oui. Et la place de la mer de Chine orientale. J'aimerais qu'on en dise un mot pour finir.
Non, mais je parlais tout à l'heure des réticences à la puissance chinoise, et je crois qu'en Asie du Sud-Est, notamment, on les voit bien. Il y a des conflits permanents avec les Philippines, avec sur ces questions territoriales. Et l'Asie du Sud-Est, notamment les pays de l'ASEAN, sont très mal à l'aise maintenant, parce que certains sont totalement sous le contrôle de la Chine, comme le Cambodge et le Laos, et puis d'autres essayent de trouver un équilibre, comme Singapour. La Malaisie penche de plus en plus essaye d'accommoder la Chine. Donc on voit bien aussi les questionnements et les malaises que provoque cette ascension de la Chine et cet équilibre que certains essayent de trouver entre leur appui sur les États-Unis et l'action de la Chine. La réaction de la première ministre japonaise est évidemment très intéressante aussi, puisqu'elle dit que c'est une question, que Taïwan est une question existentielle, et ce qui a fait évidemment réagir la Chine. Mais bon, on voit bien comment tout ça est en train d'être remué par tout cet ensemble est en train d'être remué par l'ascension chinoise, oui. La manière dont elle se produit, cette ascension.
Et les États-Unis qui ont annoncé cette semaine des ventes d'armes à Taïwan à hauteur de 11 milliards de dollars. Nicolas Chapuis ?
Oui, c'était attendu. Hein. Les États-Unis sont liés à Taïwan par un traité. Ça a été les conditions de la reconnaissance de la Chine populaire par Washington en 79. Le Taiwan Relations Act, le traité sur les relations avec Taïwan, oblige les États-Unis à défendre Taïwan. Ce qui a froissé Pékin, c'est moins les ventes elles-mêmes qui étaient attendues que la qualité des armements qui vont être fournis. Parce que ce que Donald Trump a accepté, c'est de fournir ce que les Américains produisent de meilleur et qui rendent l'armée chinoise plus vulnérable. Il faut se rappeler une chose quand on parle de la menace militaire chinoise en Asie ou dans le monde, c'est qu'en dépit de la propagande, en dépit des défilés, en dépit de la publicité, l'armée chinoise, l'armée populaire de libération, n'a jamais gagné une guerre. Sauf celle de la libération, c'est-à-dire la guerre civile, en 1949. Mais le dernier combat qu'elle a livré, question qu'on ne pose jamais. Quand est-ce que l'armée chinoise s'est battue pour la dernière fois ? Janvier 1979 contre le Vietnam. Ça a duré une semaine et ils ont été battus à plat de couture. Alors évidemment, depuis, les Chinois ont fait des progrès, mais il se trouve que Xi Jinping, depuis 6 mois, purge tous les commandants militaires. Pourquoi ? Parce qu'il n'y a pas plus corrompu que l'amiral en chef de la marine chinoise, l'armée de l'air, etc. Donc, la Chine a un problème de comportement militaire. Et tous les plans de guerre que mène aujourd'hui Pékin pour conquérir Taïwan, ou pour intimider Taïwan, et encore récemment, il y a eu des manœuvres, en réalité, comme disait Mao, après tout, c'est peut-être qu'un tigre de papier.
Il
Et il est déjà l'heure de nous quitter sur vos coups de cœur pour nos auditeurs. Thomas Gomard, directeur de l'Institut français des relations internationales de l'IFRI, votre dernier livre, L'accélération de l'histoire, les nœuds géostratégiques d'un monde hors de contrôle. Quelle est votre recommandation ce matin ?
Écoutez, de la Chine à la Creuse ou de la Creuse à la Chine, il n'y a qu'un pas, comme chacun sait. Donc je recommanderai le dernier livre de Pierre Michon, J'écris l'Iliade, publié chez Gallimard. Et sauf que je suis la production de Pierre Michon depuis des années, notamment depuis Vie minuscule, qui est un titre désormais bien connu. Et je trouve que ce texte est très original, assez inclassable, et qu'il montre que nous avons là un octogénaire en très bonne santé littéraire.
Merci infiniment. Sylvie Kaufmann, éditorialiste au journal Le Monde. Je cite votre dernier livre, Les Aveuglés, comment Berlin et Paris ont laissé la voie libre à la Russie, chez Stock.
Alors moi, c'est un livre qui m'avait été recommandé par Maïr Guven au cours d'une de nos précédentes émissions qui était sur la génération Z et on avait beaucoup parlé de Madagascar. Et donc, il m'avait recommandé ce roman que j'ai lu et qui est un très joli roman, Une reine sans royaume de Ella Fekki chez Lattès et qui est un livre sur l'exil forcé de la dernière reine de Madagascar, la reine Rana Vallone III, qui a été poussée à l'exil, enfin forcée à s'exiler d'abord à La Réunion et puis à Alger, par Gallieni. Et ce livre raconte donc elle fait une escapade en Tunisie au début du XXe siècle et se trouve dans c'est un moment de bouillonnement intellectuel en Tunisie. Elle se trouve plongée dans des salons littéraires et féminins à Tunis. Voilà, et c'est très plaisant à lire et c'est vraiment très intéressant.
Merci.
Une reine sans royaume.
Nicolas Chapuis, sinologue, ancien ambassadeur en Chine, traducteur du poète chinois Du Fu aux belles lettres.
Bon, en dehors de Du Fu, que j'invite tout le monde à lire, hein, parce que c'est le Victor Hugo chinois, donc on comprend beaucoup de choses à travers lui. Deux coups de cœur très brefs. Le premier, c'est un jeu vidéo. À l'heure où Clair-Obscur Expédition 33 a ravi les Game Awards à Los Angeles, mettant la France dans une position inespérée aux États-Unis, l'année dernière, au même Game Awards, un jeu qui aurait dû gagner, n'a pas gagné. C'est un jeu chinois qui s'appelle Black Myth Wukong, qui est un jeu vidéo qui s'appuie sur la mythologie du roi des singes, et qui est remarquablement fait, qui est magnifique, et qui a vendu plus de 10 millions d'exemplaires. Donc, à travers le monde, c'est le premier grand succès chinois. Et puis, un livre qui existe en français, dans une très très belle traduction, c'est une trilogie qui s'appelle Le problème à trois corps, The Three Body Problem en anglais, Santi en chinois, et qui a été adapté dans une production Netflix. Donc je recommande de lire le livre qui raconte comment les Chinois sont confrontés aux aliens.
Anne Cheng, sinologue, professeure au Collège de France, titulaire de la chaire Histoire intellectuelle de la Chine, votre dernier livre, Pensée en résistance dans la Chine d'aujourd'hui en poche et Désorienter la Chine aux éditions du CNRS.
Oui, en plus d'être sinologue, je suis aussi cinéphile. Et donc, à ce titre, j'aimerais bien parler un petit peu du dernier film de Wang Bing, qui est un réalisateur chinois qui vit hors de Chine, mais qui s'est donné pour mission de filmer la réalité chinoise. Il est beaucoup moins médiatique que des réalisateurs comme Jia Zhangke par exemple, mais à mon sens je pense qu'il filme une réalité chinoise qui est beaucoup plus intéressante que ce que nous voyons dans les fictions. Son dernier film, qui se présente en trois parties, s'intitule Jeunesse, justement. On vient beaucoup de parler de la jeunesse chinoise. Et là, il s'agit de la jeunesse chinoise qui travaille, enfin, dans des conditions presque esclavagistes dans les usines textiles du sud de la Chine. Et il faut prévenir que chacune des trois parties dure à peu près 3 heures.
Génial. Et ben ça nous fait de bonnes recommandations pour les vacances, pour celles et ceux qui en ont. Merci à tous les quatre d'avoir été là pour l'Esprit Public. Je rappelle que cette émission est bien sûr, comme toutes les autres, à retrouver sur le site de France Culture et sur l'application Radio France. N'hésitez pas à vous abonner au podcast de l'Esprit Public, à nous suivre sur les réseaux sociaux. On se retrouve dimanche prochain à 11h pour une émission autour de l'intelligence artificielle. Et j'en profite pour remercier le service documentation de Radio France qui nous a beaucoup aidé à la préparer. N'oubliez pas, lisez au lieu de scroller, c'est bien meilleur pour la santé. À dimanche.